France Culture.
Question du soir, Quentin l'a fait.
Dans la crise que politique que les Républicains ont participé à déclencher dimanche soir face à Sébastien Lecornu, il y avait deux motifs. La volonté d'obtenir un tiers des postes gouvernementaux d'abord et des réponses notamment en matière d'immigration. Alors quelle politique publique mettait-il derrière ? Mystère, tant l'immigration est devenue un objet politique autosuffisant et un marqueur saisissant. Alors comment le comprendre ? Et au-delà, comment comprendre que toutes les mobilités, celles des humains et celles des animaux, celles que l'on souhaite comme le tourisme et celle que l'on subit comme l'immigration, toutes les mobilités sont affaires de politique et de morale. Pour nous éclairer, une invitée ce soir, Camille Schmoll. Bonsoir.
Bonsoir Quentin Lafay.
Vous êtes géographe, directrice d'études à l'EHESS, membre du laboratoire Géographicité, membre honoraire de l'Institut universitaire de France. Vous faites paraître le livre intitulé « Chacun sa place, une géographie morale des mobilités ». C'est chez CNRS Éditions. Et je signale que votre livre précédent, « Les damnés de la mer », sort également en poche. Merci d'être avec nous ce soir dans Question du soir. Lorsque Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, explique à Sébastien Lecornu qu'il n'y a pas assez de matière en matière d'immigration, si je puis dire, comment vous le comprenez, Camille Schmoll ? Comment est-ce que vous comprenez que, j'allais dire, ce simple motif-là serve à se positionner politiquement aujourd'hui ?
Ben, on sait que les questions de migration aujourd'hui sont devenues un totem. Enfin, c'est pas nouveau d'ailleurs. Bon, on connaît les revendications de Bruno Retailleau et des Républicains autour de la réintroduction du délit d'irrégularité, de la suppression de l'aide médicale d'État, etc. Mais la question est pas seulement là. La question, c'est de savoir aussi quelle est derrière cette question des migrations. En fait, qu'est-ce qui se cache ? Enfin, en tout cas, en géographe, moi, j'essaye de comprendre ce qui se cache en termes de point de vue que défendent un certain nombre d'acteurs autour de la place des uns et des autres dans la société. Et de ce point de vue-là, on peut considérer que Bruno Retailleau, comme d'autres, notamment les figures de droite et d'extrême droite aujourd'hui, sont des entrepreneurs de morale. C'est-à-dire qu'en fait, ils définissent qui est déviant. Et là, la figure du déviant, c'est bien évidemment le migrant en premier lieu. Et c'est le migrant homme, jeune, enfin, c'est une certaine figure du migrant. C'est une figure déviante, c'est une figure menaçante. Et après, il y a un certain nombre de relais qui permettent de faire circuler cette figure-là, des relais médiatiques, des relais politiques, entrepreneuriaux, ce qu'on appelle parfois les entrepreneurs de morale. Donc, ça peut être les médias, ça peut être aussi des entrepreneurs à proprement parler, comme les entrepreneurs qui aujourd'hui régissent une partie du monde médiatique.
Ces responsables politiques de droite, d'extrême droite, d'autres vont affirmer en retour, Camille Schmoll, que les personnalités de gauche, peut-être plus partisans de l'immigration, font aussi de la morale, qu'ils sont moralisateurs, bien-pensants, qu'ils sont justement du côté des personnes réfugiées, que la morale suinte partout dans leur discours. Alors, ça veut dire que c'est morale contre morale ?
Alors, ça veut dire qu'effectivement, derrière chaque discours en relation avec les questions de mobilité, il y a des arguments moraux. D'un côté, on voit des arguments sécuritaires, des arguments parfois économiques, ça on les voit des deux côtés. Et puis de l'autre, des arguments peut-être aussi humanitaires, des arguments aussi qui ont trait parfois au droit, donc des arguments juridiques. Et donc moi, ce qui m'a intéressée, en fait, c'est toute cette architecture-là. C'est, comme vous le dites, argument moral contre argument moral. Est-ce que ça nous dit, en fait, de ce qu'il y a derrière, sur notre façon de penser, encore une fois, la place de l'autre et la place de, en particulier, en l'occurrence, quand on parle d'immigration, la place de l'étranger qui vient comme il est toujours venu en fait.
6 millions d'étrangers vivent en France, représentant 8,8% de la population française en 2024, une part inférieure à la moyenne de l'Union européenne, selon une étude de l'INSEE qui a paru ce jour. Les personnes étrangères résidant en France, mais ne possédant pas la nationalité française, sont 6 millions. Une majorité d'entre elles, 5,1 millions, sont nées à l'étranger. 900 000, principalement des mineurs, sont nés en France. Fin de citation. Vous dites, l'immigration, c'est morale contre morale, mais où s'immisce le réel, justement, dans cette opposition? Que faire de la réalité, des chiffres, des statistiques objectives?
Alors moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, là où j'en suis, hein, parce que j'ai documenté ces migrations avec d'autres, j'ai travaillé sur les trajectoires migratoires, mais ce qui m'a intéressé aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre pourquoi, malgré les faits statistiques tels qu'ils sont documentés, en fait, il y a une telle emphase sur la question migratoire et plus largement sur la question des mobilités. Et pour ça, il faut prendre un tout petit peu de distance par rapport aux chiffres, parce qu'on aura beau asséner voilà, des vérités hein, et des faits, et on est là, les chercheurs aussi pour rappeler les faits et la vérité. Donc la vérité, c'est par exemple que aujourd'hui, le grand phénomène de mobilité dans le monde, c'est pas la migration, même si la migration prend de l'importance, mais une importance relative, c'est le tourisme. Et on n'a pas cette panique morale autour du tourisme, même s'il y a une réflexion sur le surtourisme, etc., bien entendu. Mais eh bien, l'idée, c'est de dire, bon, si on met de côté la réalité, puisque la réalité, bon, on la connaît, on argumente sur cette réalité, et apparemment, les perceptions, les discours, les récits autour de cette migration ne changent pas. Qu'est-ce qui reste ? Qu'est-ce qui reste ? Et pour moi, ce qui m'intéressait, c'était de montrer comment, dans ce discours moral, il fait appel à des émotions, il fait appel à des attachements, des choses extrêmement parfois intimes, et qui nous renvoient, encore une fois, à une représentation non seulement de l'autre, mais aussi de nous-mêmes, et de où on est. Donc, je suis géographe, donc... où on est, c'est-à-dire les lieux auxquels on appartient. Et c'est ça que j'ai essayé de faire dans cet essai.
Mais c'est frappant, Camille Schmoll, c'est désarmant même lorsqu'on vous entend, vous entendre dire, dans le fond, en tant que chercheuse, en tant que chercheur, il faut peut-être mettre un peu à distance les faits, les statistiques, et s'occuper un peu plus d'affect et de morale. Moi, me semblait-il, les chercheurs étaient en recherche de vérité, d'objectivité. C'était cela, leur champ, leur domaine, leur précaré. Vous nous dites, non, il y a bien d'autres choses au fond. Et c'est d'ailleurs que, entre guillemets, le combat doit être mené sur ces questions ?
Alors non, le combat, il doit être mené partout. C'est-à-dire qu'il faut rétablir, en fait, la vérité. Et les scientifiques sont là pour cela. Mais, cette dimension morale, c'est une partie de la vérité. Donc, il s'agit pas du tout de dire le bien et le mal. Il s'agit pas d'avoir un discours moraliste. Il s'agit d'essayer de comprendre à quel point, aujourd'hui, cette dimension morale, parce qu'aussi, elle est liée, évidemment, à la mondialisation, à la circulation des images, à la circulation des discours, y compris par les réseaux sociaux, elle est devenue absolument centrale pour comprendre en fait nos attitudes vis-à-vis de ces questions migratoires ou autres.
Expliquez-nous un paradoxe. Comment se fait-il que l'immigration, l'hostilité plutôt à l'immigration, est plus importante dans les zones qui sont les moins exposées ? C'est un paradoxe apparent, je dis bien, car il y a une explication scientifique et rationnelle derrière.
Oui, oui, tout à fait. Alors, ça a été, bon, c'est beaucoup discuté, hein, dans la littérature scientifique. C'est quelque chose, sur laquelle il y a beaucoup de débats. Mais, en effet, il semblerait, alors, on prend souvent l'exemple de l'Allemagne de l'Est, hein, qui est justement moins touchée par l'immigration, mais qui vote beaucoup plus à l'extrême droite, pour expliquer le fait que, en réalité, c'est d'abord, en fait, une méconnaissance et une exposition pour le coup à des discours politiques, des discours médiatiques qui expliquent le vote à l'extrême droite, plutôt que justement le fait d'être confronté à un certain nombre de faits qui sont liés aux migrations. Et par exemple, on se rend compte que le fantasme d'une criminalité qui serait complètement liée à la migration, eh ben, il est beaucoup plus fort dans des zones où il n'y a pas de migration, justement. Parce que, en réalité, si on vit dans des lieux où il y a plus de migration, et ça c'est très difficile, je sais que c'est un argument qui est difficile parfois à accepter, mais en réalité, probablement qu'on, quelque part, parce qu'on est plus exposé, on se rend compte en fait de la réalité des choses. Alors c'est très simpliste la façon dont je l'ai restitué, parce qu'en réalité il y a vraiment du débat scientifique autour de cette thèse-là, mais voilà, grossièrement on pourrait dire que tout de même l'exposition aux questions de migration permet aussi d'avoir un jugement d'une certaine manière apaisé vis-à-vis de ces questions-là.
Une illustration alors, un reportage diffusé sur CNews, c'était le 25 février 2023, un reportage qui nous emmenait à Saint-Brévin, c'est en Loire-Atlantique.
Le centre-ville de Saint-Brévin avait des allures de camp retranché. Des forces de l'ordre en nombre pour éviter toute altercation entre 900 pros et 300 anti-CADA, le centre d'accueil pour migrants, des chiffres donnés par les autorités. Le CADA doit ouvrir fin décembre à proximité d'une école de la ville.
C'est très très important d'être là pour nous, pour montrer que Saint-Brévin est une terre d'accueil et doit le rester.
S'il y avait CADA à Saint-Brévin, parce qu'on nous met le couteau sous la gorge, ben qu'il soit près de la gendarmerie par exemple. Mais n'êtes pas près d'une école.
De forcer cette nouvelle politique de mettre dans beaucoup de communes rurales des gens qui ne sont pas tout à fait de notre culture, de notre civilisation, peut poser de toute façon un problème.
Il y a une stratégie de territorialisation de la peur et de la haine par l'extrême droite. Voilà ce qui est en train de se passer à Callac, comme à Saint-Brévin.
Saint-Brévin, 13 210 habitants, et pourtant s'est cristallisé là-bas une bataille entre des manifestants pro et anti-centres d'accueil pour migrants. Comment est-ce que vous analysez justement cette controverse, Camille Schmoll ?
Alors justement, je trouve que l'exemple de Saint-Brévin est particulièrement intéressant parce que, en fait, à Saint-Brévin, il n'y avait pas d'enjeu. C'est-à-dire qu'en fait, la question, c'était la question de déplacer un centre d'accueil pour demandeurs d'asile qui existait déjà. Donc, il ne s'agissait pas d'une augmentation de la population de demandeurs d'asile accueillis à Saint-Brévin, simplement de le déplacer dans un nouveau quartier. Donc là, l'enjeu local, l'enjeu géographique, on le comprend très bien. Ce quartier, c'est le quartier de la Pierre-Attelée, qui est un quartier avec des aménités environnementales particulièrement connues, une plage de dunes, une forêt. Et ce qui s'est passé, c'est que deux collectifs, en fait, se sont opposés au autour du déplacement de ce centre d'accueil. Et on connaît après l'épilogue, c'est-à-dire que c'est la démission du maire de Saint-Brévin qui, pour le coup, n'avait pas particulièrement, disons, un engagement humaniste, hein, qui était très pragmatique vis-à-vis du déplacement de ce centre d'accueil, mais qui a fini effectivement par démissionner, Yannick Morez, sous le coup vraiment des menaces et des agressions. Et donc là, on voit à Saint-Brévin s'affronter en fait deux visions du monde, en quelque sorte, hein, et deux visions de l'accueil, de l'hospitalité. D'un côté, une vision, disons, qui fait valoir des arguments humanitaire, humaniste, et qui considère qu'il est, humain de pouvoir accueillir ces personnes, et de l'autre côté, des arguments hostiles, en fait, des arguments qui considèrent que ce sont des indésirables, et surtout un argument sécuritaire. Et donc c'est la question de la sécurité, en particulier de la sécurité des enfants dans le quartier, qui va être au cœur de la mobilisation. Et ça, c'est vraiment intéressant de voir comment cette question sécuritaire est devenue absolument centrale dans les luttes contre l'immigration. Et l'autre point que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, cet épisode de Saint-Brévin, il met en jeu des populations qui sont certes des populations locales, mais des enjeux qui vont bien au-delà. Et on voit qu'il y a des collectifs qui se déplacent dans la région, que l'événement, enfin ces différentes manifestations sont instrumentalisées, notamment par l'extrême droite et par des figures du Rassemblement National et de Reconquête, mais qu'on a aussi des jeunesses d'extrême droite européennes qui viennent manifester à Saint-Brévin. Donc là, on est au cœur d'un enjeu qui est beaucoup plus large, et c'est là que les questions d'échelle, en géographe, je trouve que la question des échelles est vraiment intéressante, parce qu'on se retrouve sur une situation locale, mais aussi une concentration de différents types d'enjeux situés à différentes échelles et qui parfois s'oppose en fait.
On y reviendra, Camille Schmoll, justement sur ces échelles et sur la façon de les appréhender, mais un mot d'abord sur cette géographie morale des migrations que vous appelez de vos voeux, en tout cas que vous dépliez dans cet ouvrage qui vient de paraître aux éditions du CNRS. Qu'est-ce qu'une géographie morale des migrations alors ?
Alors une géographie...
Même une géographie morale.
Une géographie morale. Alors déjà, une géographie morale n'est pas une géographie moraliste. Il ne s'agit pas de dire quelle est la juste place.
C'est bien de le dire,
voilà. Quelle est la juste place des uns et des autres, hein, et les géographes ne sont pas là pour donner des leçons de morale. Il s'agit plutôt de comprendre comment nos normes et nos valeurs sociales, en fait, ont un aspect spatial, et donc sont aussi projetées dans l'espace avec des effets en retour, en fait, sur justement des formes de déplacement ou de replacement des uns et des autres. Et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est comment nos normes spatiales, qui sont intriquées avec, en fait, nos normes sociales, génèrent des jugements, mais aussi des émotions très très fortes, des émotions négatives et positives, hein, du rejet, du dégoût, ou au contraire de l'attraction, de l'engouement, pour certaines formes de mobilité. Et c'est pour ça que je voulais le travailler à partir justement pas seulement des migrations, mais de différentes formes de déplacement. Parce que pour moi, tout déplacement a des enjeux au sens où ça provoque du désordre en fait au niveau local.
Vous le faites, Camille Schmoll, avec les outils de la géographie. Il faut peut-être faire également un point d'histoire. Cette vision morale appliquée au déplacement n'est pas nouvelle. Il y a toujours eu structurellement dans les sociétés sédentaires une aversion, un doute, une haine, une mise à distance des personnes nomades au sens pluriel du terme d'ailleurs.
Oui, absolument. Hein. On peut renvoyer à la vision du vagabond, du Romanichel, des personnes errantes. Effectivement, c'est quelque chose qui est dans la continuité. Effectivement.
Aujourd'hui même, on parle par exemple des punks à chiens. On parle, je vais dire, non mais c'est une expression péjorative pour parler d'un groupe social qui est aussi non sédentaire. Ce que je veux dire par là, c'est que cette vision moraliste des déplacements se perpétue. Et dans le même temps, vous faites une autre distinction, la distinction entre les mobilités désirées et celles qui ne le sont pas. Et notamment une rupture fondamentale entre le tourisme et les migrations. Pourquoi justement rapprocher ces deux objets de recherche, le tourisme mais l'émigration?
Alors, juste pour revenir un instant au punk à chien, ce qui me semble intéressant dans cette figure-là...
Oui, parce que ça vous a fait sourire, effectivement.
Ouais, c'est que, en fait, elle introduit du désordre dans l'espace public. Parce qu'en général, le punk à chien, c'est celui, effectivement, qui se déplace avec son chien. Alors après, elle introduit aussi quelque chose qui m'est cher, à savoir la figure humanimale, diraient les géographes. En tout cas, des animaux aussi, parce que dans ces questions de mobilité, dans ces conflits moraux de mobilité, il y a aussi des animaux. Mais en général, effectivement, ces conflits-là, autour des questions de mobilité, il y a des enjeux en termes d'appropriation de l'espace, en particulier de l'espace public, et de visibilité. Mmh. Et du coup, j'ai oublié votre question.
La question, elle revenait justement sur ces deux objets de recherche que l'on rapproche rarement en sciences sociales, alors qu'il s'agit de mobilité, de déplacement, les migrations d'un côté et le tourisme de l'autre.
Oui, alors j'ai voulu effectivement travailler l'entrechoc de ces différents, ce qu'on appelle parfois des régimes de mobilité, c'est-à-dire des formes de mobilité qui sont évidemment très différentes dans leur forme. Alors ça peut paraître choquant de les rapprocher, mais ce qui m'intéressait justement, c'est de montrer comment non seulement elles sont régulées différemment, mais elles sont perçues différemment, elles sont organisées différemment dans les sociétés. Ça marche pas toujours, parfois il y a du croisement, hein. Mmh. Il suffit d'aller voir à quelques pas d'ici, hein, sous la tour Eiffel, le croisement entre des vendeurs de Tour Eiffel et des touristes. Mais en tout cas, voilà, j'ai essayé de travailler cet entrechoc dans les espaces publics et à partir d'un terrain qui m'est cher, qui est la Méditerranée, et de montrer comment, en fait, on a là un des premiers espaces de migration au monde, mais aussi un des premiers espaces de mort en migration, et enfin un des premiers espaces touristiques au monde. Et comment, en fait, l'organisation spatiale de ces deux formes de mobilité était faite de façon à ce que migrants et touristes ne se croisent pas, mais en réalité, par moment, parce que c'est ça aussi la mondialisation, parce que c'est ça ce que la géographe Dorine Massey appelle le throw togetherness, c'est-à-dire le fait d'être ensemble en un même lieu, eh bien ces mobilités-là, les touristes et les migrants, se croisent. Et là, ça provoque au moins des étincelles.
Alors justement, il faut nous décrire ce que ça provoque, il faut nous expliquer ce que ces rencontres, fortuites ou non, peuvent provoquer socialement.
Alors, socialement, déjà, ça provoque du désordre. Ça provoque du désordre parce que quand on part en voyage organisé sur les îles grecques, par exemple, et quand surgit l'événement été 2015 avec ce qu'on a appelé à tort, bien entendu, la crise migratoire, eh bien, tout d'un coup, vous vous retrouvez en face d'une situation qu'évidemment, vous n'aviez pas prévue. Or, on sait que la définition même du tourisme, c'est justement de s'attendre à quelque chose et quelque part d'être maître de la définition de son voyage et de savoir où on va se trouver. Dans quelles conditions on va se trouver. Ça fait partie de la tension du voyage touristique entre surprise et, routine. Et donc, ce qui s'est passé, hein, et ce que j'ai pu observer sur mes terrains, c'est le croisement et l'entrechoc. Et j'ai travaillé en particulier sur des plages, sur des navires. Qu'est-ce qui se passe quand un navire, tout d'un coup, se retrouve, un navire de croisière, par exemple, se retrouve à croiser un bateau de migrants, ou encore sur des hôtels où on essayait, en accueillant des demandeurs d'asile ou des migrants irréguliers, de continuer à faire venir des touristes. Et ce qui se passe, c'est des phénomènes de micro-frontierisation. Hein, donc de la construction de micro-frontières, de distanciation, mais aussi parfois des formes d'empathie, des formes de compassion, des formes de, en fait, d'engouement humanitaire. Et donc c'est très intéressant de travailler la tension entre la façon dont les sociétés vont essayer de réguler et de cloisonner ces mobilités et en même temps la façon dont finalement, de temps en temps, le croisement, la rencontre surgit et ça donne des formes de cosmopolitisme, des formes d'interaction qui sont intéressantes à observer parce que qui peuvent nous aider à réfléchir sur ce que pourrait être le fait d'être ensemble en un même lieu.
Sur le tourisme et sur la lutte plus encore contre le surtourisme, on reste en Méditerranée, mais direction l'Espagne cette fois-ci.
Depuis un an, la colère ne retombe pas. Dans le viseur des manifestants, le tourisme de masse. Deuxième destination touristique mondiale derrière la France, l'Espagne suffoque. Au premier trimestre 2025, le pays a déjà accueilli 17,1 millions de visiteurs, 94 millions en 2024, un record aux conséquences délétères.
Comme l'indique ma pancarte, il faut réduire l'activité touristique. Les limites ont été dépassées.
On gagne 1000 euros de salaire et on ne peut pas se permettre de payer un logement à 1000 euros de loyer. Comment on mange avec ça? On est là pour défendre nos droits, la situation est hors de contrôle.
Qu'est-ce que raconte Camille Schmoll ces offensives, ces mobilisations contre le surtourisme? En Espagne, à Barcelone, là où vous avez travaillé, elles ont à peu près une dizaine d'années, c'est relativement récent en réalité.
Oui, absolument. Alors, on assiste en fait à une diffusion des mobilisations autour, contre le tourisme, et en particulier contre le surtourisme. Hein. C'est pas contre le tourisme en général, et on aurait tendance à opposer en fait des résidents d'un côté et de l'autre côté des touristes. En réalité, c'est beaucoup plus complexe. Hein. Ces personnes, elles sont en lutte aussi pour une certaine forme contre une certaine forme de tourisme, et de la même façon, ces personnes ne sont pas toujours en fait des résidents. Hein. C'est parfois même des touristes. Qui se battent, des touristes, disons, habituels, des habitués, des usagers habituels des lieux, qui se battent contre de nouveaux touristes qui considèrent comme, dont les pratiques sont considérées comme inappropriées et indésirables. Donc c'est très complexe. Et en fait, il ne faudrait pas simplement opposer, disons, un régime touristique qui serait désirable et un régime migratoire qui serait indésirable, ou opposer les résidents aux touristes. C'est beaucoup plus complexe que ça. Mais ce que ça nous dit, c'est que derrière ces discours et ces mobilisations, il y a toujours, en fait, une réflexion sur ce qu'on voudrait que les lieux soient, en fait, et ce qu'on voudrait qu'ils ne soient pas. Et donc, aussi des discours sur l'hospitalité. Qui est-ce qu'on accueille? Qui est-ce qu'on n'accueille pas? Par exemple, ce qui m'a beaucoup frappée, c'est qu'à Barcelone, comme à Naples, qui est une ville aussi qui a été saisie par ces questions d'augmentation touristique, hein, les chercheurs réfutent le terme de surtourisme en général, mais d'augmentation de la fréquentation touristique, ou les îles Canaries, ou d'autres. En fait, ce sont des lieux qui se sont montrés plutôt, enfin, ça dépend des séquences, mais plutôt hospitalier vis-à-vis des migrants. Et ça, c'est intéressant de voir comment s'est développée une réflexion critique sur le tourisme et en même temps une réflexion sur l'hospitalité urbaine et une définition différente en fait de l'hospitalité. L'hospitalité, c'est à la fois un terme qu'on trouve dans l'industrie touristique et dans l'industrie, enfin dans la réflexion sur les migrations. Donc c'est intéressant de pouvoir justement voir comment ces lieux, souvent en fait, ces lieux-là, et je reviens à la question des échelles, il s'oppose à des discours nationaux, en fait. Donc, on a une dimension locale de mobilisation pour accueillir les migrants et contre certaines formes de tourisme, contre une dimension nationale d'hostilité. On sait qu'en Italie, par exemple, aujourd'hui, le gouvernement Meloni vraiment insiste beaucoup sur l'utilité économique du tourisme. Et donc, il y a cette opposition entre local et national qui est intéressante.
Si l'on prend un peu de recul, Camille Schmoll, est-ce que vous diriez que nous vivons aujourd'hui dans des sociétés hypermobiles ?
Alors, c'est compliqué là aussi parce qu'en fait, effectivement, certaines formes de mobilité ont beaucoup augmenté. Je disais, hein, on est passé de 200 millions de voyages touristiques par an dans les années 90, je crois, à aujourd'hui près de 2 milliards de voyages touristiques. Donc, et on a pensé, pendant le Covid, qui était quand même un moment où on a fait cette expérience d'immobilité radicale, enfin en tout cas la plupart d'entre nous, pas tous, on le sait bien, on a pensé qu'il y aurait peut-être un ralentissement du tourisme. En réalité, c'est pas du tout le cas. Donc si on regarde les chiffres du tourisme, oui, on est dans une société hypermobile. Mais moi, ce qui m'intéressait dans cette réflexion sur les valeurs, les normes associées à la mobilité, c'était de montrer que en réalité, et ça ramène à la question des migrations qui sont bien moins importantes quelque part, en réalité, le regard qu'on porte sur ces mobilités n'est pas lié à leur importance, en fait, ou pas uniquement en tout cas. Certes, intensification des mobilités, mais aussi circulation des images, circulation des émotions associées à ces images. Et c'est essentiellement par les imaginaires, en fait, que construisent ces images, ces discours sur les migrations, sur le tourisme, etc., qu'on peut aussi dire que oui, c'est à la fois une représentation de l'hypermobilité et une hypermobilité.
Et puis il y a aussi une injonction économique à l'hypermobilité. On dit souvent dans les manuels d'économie, dans le fond, si une région périclite du point de vue industriel, eh bien les travailleurs pourront changer de région pour aller trouver un emploi ailleurs. Le modèle parfait, c'est peut-être les États-Unis. Dans ce domaine, je parle de modèle théorique, bien sûr. Or, les gens sont attachés à l'endroit où ils vivent. Ils sont parfois enracinés dans une histoire, dans un lieu. C'est compliqué souvent d'être hypermobile. Comment, j'allais dire, analyser en quelques mots cette injonction-là?
Alors, le premier point, c'est que je crois que, en fait, la question des normes associées à la mobilité, elle est complètement, elle est ancrée, en fait, dans des rapports sociaux, dans des rapports de genre, de classe, de race. Et donc, ça, c'est très important de ne pas, en fait, isoler la question, en fait, de ces valeurs morales des inégalités de mobilité. Par contre, on peut effectivement critiquer le discours qui valorise la mobilité, mais je crois qu'il faut aussi prêter attention et critiquer aussi une forme de discours qui valoriserait l'hyperlocalisme. Parce que là aussi, derrière ça, il y a une espèce de piège de la pureté du local qui en réalité n'existe pas. C'est ce que Zygmunt Bauman appelle la rétrotopique localiste. La pureté du local n'existe pas, il y a toujours eu des mobilités, il y a toujours eu des transformations par les mobilités. Et donc il faut trouver un peu, il faut travailler cette tension-là, entre la mobilité d'un côté et le local de l'autre.
Chacun sa place, donc une géographie morale des mobilités, c'est chez CNRS Éditions. Merci beaucoup Camille Schmoll et merci à celles et ceux qui ont fait cette émission. Anouk Milliot, Bertie Bourdon, Rodi Eken à la réalisation. C'est Léa Racine et Timothée Hubert ce soir à la technique.